Fletcher fit pencher la flamme. La Marlboro prit et le bout rougeoya. Il inspira profondément et il n'eut pas de mal à se mettre à tousser. Au bout de 3 ans d'abstinence, il aurait été difficile de ne pas être pris d'une quinte de toux. Il se rassit et ajouta un grognement râpeux, comme s'il s'étouffait à la toux. Puis il commença à trembler de tout son corps, donnant des coups de coude, la tête roulant de droite à gauche, tapant des pieds. Mieux encore, faisant appel à un talent qui remontait à son enfance, il se mit à rouler des yeux, ne laissant plus voir que le blanc, et sans lâcher sa cigarette. Fletcher n'avait jamais assisté à une crise d'épilepsie de sa vie. Tout au plus avait-il le vague souvenir de Patty Duke en simulant une dans The Miracle Worker. Il n'avait aucun moyen de savoir si ce qu'il faisait présentait toutes les caractéristiques d'une crise d'épilepsie, mais il espérait que la mort inattendue de Thomas Herrera les empêcherait de voir les fausses notes éventuelles de son numéro.
« Merde, voilà que ça recommence !»
glapit Heinz, d'une voix qui s'étranglait complètement. Au cinéma, il aurait fait rire.
« Attrape-le, Ramon !»
aboya Escobar en espagnol. Le gros homme voulut se lever, mais il heurta la table de ses cuisses rebondies, elle se souleva et retomba lourdement. La femme ne bougea pas et Fletcher pensa « Elle se doute de quelque chose. Je parie qu'elle ne le sait même pas encore, mais elle est plus intelligente qu'Escobar, bien plus intelligente. » Et elle se doute de quelque chose. Vrai ou faux? Avec les yeux révulsés, ce n'était qu'un fantôme de femme qu'il apercevait, et c'était insuffisant pour pouvoir le dire. Mais il savait qu'il avait raison. Qu'est-ce que ça faisait, en fait? La machine avait été mise en branle, il fallait aller jusqu'au bout, s'entraîner.
« Ramon !» hurla Escobar. « Ne le laisse pas tomber par terre! Ne le laisse pas avaler sa langue !»
Le gardien se pencha vers Fletcher et le prit par les épaules. Le journaliste les faisait violemment tressauter, voulant peut-être lui renverser la tête en arrière, ou encore s'assurer qu'il n'avait pas avalé sa langue. Personne ne pouvait avaler sa langue, sauf si elle était coupée. Manifestement, Ramon ne regardait pas la série Urgence. Mais peu importait ce qu'il voulait. Quand le visage du gardien fut à sa portée, Fletcher enfonça le bout incandescent de la Marlboro dans son œil. Ramon poussa un hurlement et bondit en arrière. Il porta la main droite à son visage, là où la cigarette, qui se consumait toujours, pendait de travers dans son orbite, mais sa main gauche était restée sur l'épaule de Fletcher. Elle s'était contractée et lui broyait la clavicule si bien que son mouvement de recul provoqua la chute de la chaise sur laquelle Fletcher était assis. Le journaliste roula par terre et bondit sur ses pieds. Heinz hurlait quelque chose, des paroles peut-être, mais aux oreilles de Fletcher, on aurait dit une préadolescente s'égosillant à la vue de son idole, l'un des Hanson peut-être. Escobar, lui, ne faisait aucun bruit, ce qui n'était pas bon signe. Fletcher ne prit pas le temps de regarder vers la table. Il saisit à deux mains la crosse du pistolet qui dépassait de l'étui et le tira à lui. Sans doute le gardien n'eut-il même pas conscience d'avoir été désarmé. Il hurlait un flot d'imprécations en espagnol, sa main voletant au-dessus de son visage sans vraiment oser le toucher. Il finit par heurter le filtre de la cigarette, mais au lieu de tout faire tomber, il ne réussit qu'à séparer l'un de l'autre si bien que le bout incandescent resta fiché dans son œil. Fletcher se tourna. Escobar était déjà là, ayant fait le tour de la table. Il se propulsait, main tendue. Il n'avait plus du tout l'air du bon gars qui présente de temps en temps la météo à la télé et raconte des histoires de haute pression.
« Chope-moi ce salopard d'Amerloc !»
cracha la fiancée de Frankenstein. D'un coup de pied, Fletcher envoya la chaise renversée dans les pattes d'Escobar qui trébucha. Pendant qu'il tombait, Fletcher braqua le pistolet qu'il tenait toujours à deux mains et tira dans la tête de l'homme. Ses cheveux se soulevèrent et du sang jaillit par son nez et sous son menton, là où la balle était ressortie. Escobar s'effondra, son visage en sang plaqué au sol. Ses pieds se mirent à tambouriner sur le sol de dalle grise. L'odeur de la merde monta de son corps mourant. La femme n'était plus à sa place, mais elle n'avait aucune intention d'approcher le journaliste. Elle courait vers la porte, vive comme une biche sous sa robe sombre informe. Ramon, toujours hurlant, se trouvait entre Fletcher et la femme, tendant les mains vers l'Américain, voulant l'attraper par le cou et l'étrangler. Fletcher tira deux fois sur lui, à la poitrine et au visage. La deuxième balle arracha le nez et une bonne partie de la joue droite de Ramon. Mais le gros homme en uniforme brun n'en continua pas moins d'avancer, rugissant, le fragment de cigarette pendant toujours de son œil, tandis que ses énormes doigts boudinés s'ouvraient et se refermaient. Mais il trébucha sur le corps d'Escobar, tout comme Escobar avait trébuché sur la chaise. Un bref instant, Fletcher pensa à ce dessin humoristique où on voit un alignement de poissons de plus en plus grands, prêts à se manger mutuellement et dans l'ordre. Chaîne alimentaire avait été intitulée cette œuvre. Ramon, affalé par terre, truffé de deux balles tirées à bout portant, trouva tout de même le moyen de tendre la main et d'attraper Fletcher par la cheville. Le journaliste se dégagea et manqua à perdre l'équilibre, expédiant involontairement une quatrième balle dans le plafond. De la poussière tomba. Fletcher regarda vers la porte. La femme s'y trouvait toujours, tirant d'une main sur la poignée et manipulant frénétiquement le verrou de l'autre. Elle n'arrivait pas à ouvrir. Sinon, elle l'aurait déjà fait. Sinon, elle aurait déjà été au bout du corridor en train de hurler à l'assassin dans l'escalier. « Hé !» lui lança Fletcher. Il se sentait comme un type ordinaire qui fait sa partie du vendredi soir au bowling du coin et vient de marquer ses 300 points. « Hé, toi, la salope, regarde-moi un peu. » La fiancée de Frankenstein se tourna et s'appuya des paumes contre le battant, comme pour s'y incruster. Elle avait toujours ses petites têtes de clous brillantes dans les yeux. Elle se mit à lui dire qu'il ne devait pas lui faire de mal. Elle avait parlé en espagnol, mais elle se reprit bientôt et recommença en anglais. « Vous ne devez surtout pas me toucher, Mr. Fletcher. Je suis la seule à pouvoir vous garantir un sauf-conduit pour sortir d'ici. Je vous jure solennellement que je le ferai. Mais vous ne devez pas me faire de mal. » Derrière eux, Heinz ululait comme un ado amoureux ou terrorisé. Se rapprochant de la femme, la fiancée de Frankenstein adossée à la porte, les mains à plat contre le battant métallique, il sentit son parfum, un arôme doux amer. Elle avait les yeux en amande, les cheveux coiffés en arrière en vagues noires striées de blanc. « Nous ne jouons pas au con », lui avait-elle déclaré, et Fletcher pensa « Moi non plus, je n'y joue pas ». La femme lut la nouvelle de sa mort dans les yeux du journaliste et se mit à parler plus vite, cherchant à s'incruster de plus en plus, du dos, des fesses et des mains, dans la porte au dur revêtement métallique. Comme si, en poussant suffisamment fort, elle avait pu fusionner avec la porte, se fondre en elle et la franchir ainsi. « Elle avait des papiers, disait-elle, des papiers au nom de Fletcher, et elle les lui donnerait. Elle avait aussi de l'argent, beaucoup d'argent et même de l'or, sans parler d'un compte à numéro en Suisse auquel elle avait accès directement depuis son ordinateur. » Fletcher se dit qu'au bout du compte, il n'y avait qu'un moyen pour reconnaître qui était voyou, qui était patriote. Quand il voyait la menace de leur mort grandir dans vos yeux comme monte une marée, les patriotes faisaient des discours. Les voyous, eux, vous donnaient le numéro de leur compte bancaire en Suisse avec en prime le code d'accès par Internet. « Ferme-la !» dit Fletcher. À moins que l'isolation de cette salle ne soit de première bourre, il devait y avoir une douzaine de soldats en train de dégringoler l'escalier. Il n'avait aucun moyen de leur tenir tête, mais cette bonne femme ne s'en sortirait pas vivante. Elle se tut, toujours plaquée contre la porte, toujours appuyant dessus de la paume de ses mains, toujours avec les têtes de clous dans les yeux. « Quel âge pouvait-elle avoir ?» se demanda Fletcher. « 65 ans ?» Et combien d'hommes et de femmes avait-elle tué dans cette salle ou dans des endroits semblables ? Combien de meurtres avait-elle ordonné ? Écoutez-moi, dit Fletcher. Vous m'écoutez ? Ce vers quoi elle tendait l'oreille, sans aucun doute, était le bruit des secours qui approchaient. Rêve toujours, songea le journaliste. Votre mystère météo a dit que le Condor prenait de la coke, qu'il faisait le jeu des communistes, qu'il était la pute de la United Fruit, et qui sait quoi encore ? Je n'en sais rien et je m'en fiche. Ce que je sais, par contre, c'est qu'il n'a jamais été responsable des patrouilles sur la rivière Kaya pendant l'été de 1994. À l'époque, Nunez était à New York, à l'université de New York, pour être précis. Il ne faisait donc pas partie de la bande qui est tombée sur les religieuses dans le secteur de la Kaya. Ils ont fiché trois de leurs têtes sur des pieux, au bord de l'eau. L'une d'elles était celle de ma sœur. Au milieu. Fletcher tira par deux fois. Puis le pistolet de Ramon cliqueta dans le vide. Deux avaient suffi. La femme glissa le long de la porte sans que son regard brillant ne quitte un instant les yeux du journaliste. « C'était toi qui étais supposé mourir, » disait ce regard. « Je ne comprends pas. C'était toi qui devais mourir. » Sa main se porta à sa gorge, serra par deux fois, puis retomba inerte. Ses yeux restèrent fixés sur lui encore un moment, des yeux brillants comme ceux d'un vieux marin ayant une sacrée histoire à raconter, puis sa tête tomba en avant. Fletcher se tourna et se dirigea alors vers Hines, braquant le pistolet de Ramon sur lui. C'est en marchant qu'il se rendit compte qu'il avait perdu sa chaussure droite. Il regarda Ramon toujours allongé à plat ventre, la figure dans une flaque de sang qui s'agrandissait peu à peu. Le gardien tenait encore la chaussure de Fletcher à la main, comme une belette mourante qui refuse de lâcher sa proie. Fletcher prit le temps d'enfiler la chaussure. Hines se tourna comme pour s'enfuir et le journaliste agita l'arme dans sa direction. Le chargeur était vide, mais Hines ne paraissait pas l'avoir compris. Peut-être se rappelait-il en revanche qu'il n'y avait aucune possibilité de fuite, qu'il ne pouvait pas sortir de la salle d'exécution. Il interrompit son mouvement, se contentant de fixer l'arme qui s'approchait, tenue par l'homme qui s'approchait. Il pleurait. « Recule d'un pas !» dit Fletcher. Toujours en larmes, Hines s'exécuta. Fletcher s'arrêta à hauteur de la machine infernale. Quel terme Hines avait-il employé déjà ? Atavisme, non ? L'appareil posé sur la table roulante présentait un aspect bien trop simple pour un homme aussi intelligent que Hines. Trois cadrans, un interrupteur marqué « marche-arrêt », actuellement en position arrêt, et un rhéostat réglé sur l'équivalent approximatif de 11 heures. Les aiguilles des cadrans étaient toutes sur zéro. Fletcher prit le stylet et le tendit à Hines. Celui-ci émit un son mouillé, secoua la tête et recula encore d'un pas. Ses traits s'agitèrent de mouvements contradictoires qui lui donnaient l'air de ricaner de chagrin, puis s'affaissèrent de nouveau. Il avait le front moite de sueur, les joues mouillées de pleurs. Ce deuxième pas le conduisit à la verticale d'une des ampoules grillagées, et son ombre se réduisit à une flaque autour de ses pieds. « Prends-le ou je te descends, » dit Fletcher. « Et si tu recules encore, pareil. » Il n'avait pas de temps à perdre, et, en dépit du malaise qu'il ressentait, le journaliste ne pouvait s'empêcher de continuer. Il ne cessait de revoir la photo de Thomas, les yeux ouverts, la petite marque faisant penser à une brûlure de poudre. Sanglotant, Hines prit l'objet en forme de stylo, le tenant avec précaution par la poignée isolante. « Mets-le dans ta bouche. »« Suce-moi ça, comme si c'était une sucette. »«
Non !»
gémit Hines entre deux sanglots. Il secoua la tête et des gouttelettes volèrent de son visage. Ses traits se contorsionnaient de nouveau. Contraction, affaissement, contraction, affaissement. À l'une de ses narines, une bulle de morve verdâtre se gonflait et se dégonflait, sans éclater, au rythme de sa respiration haletante. Fletcher n'avait jamais rien vu de pareil.
« Non, vous ne pouvez pas m'obliger !»
Hines savait pourtant que l'Américain le pouvait. La fiancée de Frankenstein ne l'avait peut-être pas cru, et Escobar n'avait vraisemblablement pas eu le temps de le croire, mais Hines savait qu'il n'avait plus aucun droit de refuser. Il était dans la situation de Thomas Herrera, dans celle de Fletcher quelques instants auparavant. D'une certaine manière, c'était une vengeance suffisante, mais de l'autre, il manquait quelque chose. Le fait de savoir était une simple idée. Mais ici, les idées ne servaient à rien. Voir, ici, c'était croire. « Mets ça dans ta bouche, ou je te loge une balle dans la tête, » dit Fletcher, braquant le pistolet directement sur le nez de l'homme. Hines eut un mouvement de recul accompagné d'un gémissement de terreur. Fletcher entendit alors sa voix prendre un ton plus grave, un ton de confidence, de sincérité. D'une certaine manière, elle lui rappelait celle d'Escobar. « Nous avons une zone de basse pression, nous avons des saletés d'averse. Je ne mettrai pas le jus si vous le faites tout de suite. Je veux simplement que vous ayez une idée de l'effet que ça fait. » Hines regarda Fletcher. Ses yeux bleus, bordés de rouge, étaient remplis de larmes. Il ne croyait évidemment pas le journaliste. Ce qu'il venait de lui dire était absurde. Mais Hines voulait cependant le croire parce que, absurde ou pas, Fletcher avait droit de vie et de mort sur lui. Il suffisait de l'énerver un tout petit peu. Fletcher sourit. « Fais-le, pour ta recherche. » Heinz fut convaincu, pas entièrement, mais assez pour croire que l'Américain pouvait être Mister Peut-être après tout. Il plaça l'embout d'acier dans sa bouche. Ses yeux exorbités fixaient Fletcher. Entre eux et le stylet, qui ressemblait davantage à un thermomètre à l'ancienne mode qu'à un bois de sucette, la bulle verdâtre de morve se gonflait et se dégonflait. Pointant toujours son arme sur Heinz, Fletcher fit passer l'interrupteur de l'appareil en position marche et tourna le réostat à fond. L'aiguille passa de 11h à 5h. Heinz aurait pu avoir le temps de recracher le stylet, mais au lieu de cela, la décharge lui fit serrer les dents sur la tige d'acier. Le claquement fut encore plus fort cette fois, disons une petite branche plutôt qu'une tige. Il serra encore plus les dents. À sa narine, la bulle de morve verdâtre éclata, comme l'un de ses yeux. Tout son corps paraissait vibrer sous ses vêtements. Il avait les mains tordues à hauteur des poignets, les doigts écartés. Ses joues passèrent du blanc au gris pâle pour prendre finalement une nuance violacée sombre. De la fumée se mit à sortir de son nez. L'autre œil jaillit de son orbite et retomba sur sa joue. Au-dessus des deux globes oculaires disloqués, il y avait maintenant deux orbites sanglantes qui regardaient Fletcher, stupéfaites. L'une des joues de Heinz se déchira ou fondit. De la fumée et une forte odeur de chair calcinée passèrent par la plaie ouverte que des petites flammes orange et bleue vinrent lécher. L'homme avait la bouche en feu. Sa langue brûlait comme un vieux tapis. Fletcher n'avait pas lâché le réostat. Il le fit revenir à zéro et coupa le courant. Les aiguilles des petits cadrans, qui étaient montées jusqu'à la marque plus 50, redégringolèrent immédiatement. Dès que le courant ne passa plus, Heinz s'effondra sur le sol, un nuage de fumée s'échappant de sa bouche dans sa chute. Le stylet libéré tomba à côté de lui. Des fragments arrachés aux lèvres de l'homme étaient collés sur l'acier. Un hoquet violent et salé agita la gorge de Fletcher, qui dut faire un effort pour ne pas vomir. Il n'avait pas le temps de prendre acte de ce qu'il venait de faire à Heinz. Il pourrait toujours vomir plus tard. Il s'attarda néanmoins encore un peu, penché sur la bouche fumante et les yeux délogés du pseudo-scientifique. « Hé, comment tu le décrirais ? » demanda-t-il au cadavre. « Alors que l'expérience est toute récente, hein ? Comment ? Rien à dire ?» Puis Fletcher fit demi-tour pour traverser rapidement la salle, contournant Ramon qui, encore vivant, gémissait à terre. On aurait dit qu'il faisait quelques mauvais cauchemars. Il se rappela alors que la porte était fermée à clé. C'était Ramon qui l'avait fermée. C'était donc lui qui devait avoir la clé accrochée à la taille. Fletcher revint jusqu'au gardien, s'agenouilla à côté de lui et arracha le porte-clé qui pendait à la ceinture. À ce moment-là, la main de Ramon vint une fois de plus agripper la cheville de Fletcher. Celui-ci tenait toujours le pistolet. Il abattit la crosse sur la tête de Ramon. Pendant une seconde ou deux, la main serra sa cheville un peu plus fort, puis elle se relâcha. Fletcher commençait déjà à se relever lorsqu'il pensa « Des balles, il doit en avoir sur lui, le chargeur est vide. » Puis il lui vint à l'esprit qu'il n'allait plus avoir besoin de saleté de balles, que l'arme de Ramon avait accompli tout ce qu'il pouvait en attendre. Ouvrir le feu une fois hors de cette pièce ne ferait qu'attirer la troupe comme des mouches. Fletcher n'en tâta pas moins la ceinture de Ramon. Il tomba sur un petit sac de cuir dans lequel se trouvait un chargeur plein. Il jeta le vide et mit celui-ci à la place. Il ignorait s'il serait capable de tirer sur des soldats ordinaires, des types comme Thomas, des hommes ayant une famille à nourrir. Mais il ne se gênerait pas avec les officiers et il garderait la dernière balle pour lui. Les chances qu'il avait de quitter le bâtiment étaient plus que minces. Voilà qui reviendrait à totaliser deux fois de suite les mythiques 300 points du bowling. Mais une chose était sûre. Jamais on ne le ramènerait vivant dans cette salle. Jamais on ne l'installerait dans la chaise à côté de l'appareil de Heinz. Du pied, il repoussa le cadavre de la fiancée de Frankenstein pour dégager la porte. Les yeux de la femme foudroyaient le plafond, mais sans force. Fletcher réalisait de plus en plus nettement qu'il avait survécu et les autres, non. Il refroidissait. Sur leur peau, des galaxies de bactéries avaient déjà commencé à mourir. Malsain de nourrir de telles pensées quand on était dans le sous-sol du ministère de l'Information. Malsain, quand on était devenu, au moins pour un temps, mais peut-être pour toujours, un desaparecido. Il ne pouvait cependant pas s'empêcher de les avoir. La troisième clé ouvrait la porte. Passant la tête par l'entrebâillement, il étudia le corridor, mur de parpaing, la moitié inférieure peinte en vert, le reste d'un blanc crème pisseux, comme dans une vieille école. Un lino d'un rouge délavé recouvrait le sol. Il n'y avait personne. À une dizaine de mètres sur sa gauche, un petit chien marron dormait affalé contre le mur. Ses pattes s'agitaient. Fletcher ignorait s'il rêvait qu'il était chassé ou qu'il chassait lui-même, mais l'animal n'aurait pas dormi si les coups de feu ou les cris de Heinz avaient été nettement audibles jusqu'ici. « Si jamais je m'en sors, j'écrirai un article qui démontrera que l'insonorisation est le grand triomphe des dictatures. Je le dirai au monde, certes. » Il y a peu de chances pour que je m'en sorte. Cet escalier que je vois par là est probablement l'endroit le plus proche de la 43e rue que j'atteindrai jamais, mais... Mais il y avait Mister Peut-être je peux. Il passa dans le couloir et referma la porte de la salle d'exécution derrière lui. Le petit chien marron leva la tête, regarda Fletcher, gonfla les babines pour lâcher un « ouf » sans conviction, puis reposa la tête sur ses pattes et parut se rendormir. Fletcher se laissa tomber à genoux, posa ses mains sans lâcher son arme sur le sol, se pencha et embrassa le lino. Ce faisant, il pensa à sa sœur, à l'aspect qu'elle avait quand elle était partie pour la fac, 8 ans avant sa mort près de la rivière. Elle portait une jupe écossaise ce jour-là, et si les bandes rouges qu'elle comportait n'avaient pas été exactement de la même nuance que le lino, elles en avaient été assez proches. Fletcher se releva. Et se dirigea vers l'escalier, vers le hall du rez-de-chaussée, vers la rue, vers la ville, vers la Nationale 4, vers les patrouilles, vers les points de contrôle routiers, vers la frontière, vers l'eau. D'après les Chinois, un voyage de 1000 kilomètres commence avec un seul pas. « Je verrai bien jusqu'où j'irai », se dit Fletcher en arrivant au pied des marches. « Je pourrais très bien me surprendre moi-même. » Mais, surpris, il l'était déjà, ne serait-ce que d'être en vie. Esquissant un sourire, l'arme de Ramon pointée devant lui, Fletcher attaqua la première marche. Un mois plus tard, un homme s'approcha du kiosque à journaux de Carlo Arcuzzi sur la 43e rue. Carlo connut quelques instants désagréables. Il crut que l'individu allait lui braquer un revolver sous le nez et lui voler sa recette. Il n'était que 8 heures du soir et il faisait encore jour, sans compter que les passants étaient assez nombreux. Mais ce genre de détail arrête-t-il un homme qui est pazzo? Et l'homme lui paraissait tout à fait pazzo. Il était si maigre que sa chemise blanche et son pantalon gris flottaient sur lui, et que ses yeux s'enfonçaient profondément dans des orbites démesurées. Il avait l'air de sortir d'un camp de concentration ou encore, du fait de quelque erreur flagrante, d'un asile de fous. Lorsqu'il porta la main à sa poche, Carlo Arcuzzi se dit « Et voilà le pétard. » Mais à la place, l'homme en chemise blanche et pantalon gris n'exhiba qu'un portefeuille avachi, même si c'était un Lord Buxton, dont il retira un billet de 10 $. Puis d'un ton tout ce qu'il y avait de plus normal, il demanda un paquet de Marlboro. Carlo en prit un, le posa devant lui avec une pochette d'allumettes dessus et poussa le tout vers son client. Pendant que l'homme ouvrait le paquet, Carlo prépara la monnaie. « Non, » dit l'homme quand il vit les pièces. Il avait glissé une cigarette entre ses lèvres. « Non, qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Gardez la monnaie. » Il tendit le paquet à Carlo. « Est-ce que vous fumez ? Servez-vous, si ça vous fait plaisir. » L'expression méfiante, Carlo examina l'homme en chemise blanche et pantalon gris. « Je ne fume pas, c'est une mauvaise habitude. » « Oui. » « Très mauvaise, » concéda l'homme. Sur quoi il alluma sa cigarette et inhala avec une apparente satisfaction. Il resta où il était, attiré sur sa cigarette en regardant les passants de l'autre côté de la rue. Il y avait des filles parmi eux. Que les hommes regardent les filles en robe d'été, voilà qui était dans la nature humaine. Carlo ne pensait plus que son client était cinglé, même s'il avait laissé la monnaie d'un billet de 10 $ sur le minuscule comptoir du kiosque. L'homme émacié fuma sa cigarette jusqu'au filtre. Puis il se tourna vers Carlo, vacillant légèrement sur lui-même. À croire qu'il n'avait pas l'habitude de fumer et avait la tête qui tournait. « Belle soirée, » dit-il. Carlo acquiesça. C'était vrai. « Belle soirée. »« On a de la chance d'être en vie, » commenta Carlo. L'homme hocha la tête. « Oui, nous tous. Tout le temps. » Il s'avança jusqu'à une petite poubelle. Il y jeta tout le paquet, ne conservant qu'une seule cigarette. « Nous tous. Tout le temps. » répéta-t-il. Puis il s'éloigna. Carlo le regarda partir et se dit qu'en fin de compte, l'homme était peut-être pazzo. Ou peut-être pas. La folie est un état difficile à définir. Voici une nouvelle légèrement kafkaïenne sur une salle d'interrogatoire dans ce qui est la version sud-américaine de l'enfer. Dans de telles histoires, le malheureux soumis à l'interrogatoire finit toujours par se mettre à table, puis par être tué, ou alors il perd l'esprit. J'ai eu envie d'en écrire une finissant bien, aussi irréaliste que cela fût. Et voilà ce que ça a donné.